Chapitre 64. Savoir que tout en ce monde, l'histoire, les sciences, la poésie, l'art et la musique, les gens, les lieux, les choses et les idées, savoir que tout est connecté, c'est une chose. Faire l'expérience de cette connexion, même de façon incomplète, c'en est une autre. Armand demeura quasi inconscient durant 9 jours. Lorsqu'il émergeait, ce n'était que pour quelques instants à peine qu'il passait à hurler de douleur, en proie à une céphalée qui dépassait les capacités d'endurance de son cerveau et de son crâne. Il vomissait beaucoup, puis il retombait dans le coma. Il se réveilla le 9e jour. Une forte migraine déferla sur lui, pire que toutes celles qu'il avait pu connaître avant cette semaine, mais supportable comparée à celle qui venait de l'affliger. La nausée l'avait quitté et il avait l'estomac vide. Par la suite, il constaterait qu'il avait perdu 12 kilos. Il était allongé nu sur le lit dans la chambre de l'Eiffelbahn. Cette cabine est conçue et décorée dans le style de l'Art nouveau, songea-t-il pendant qu'il se levait et enfilait un peignoir en soie posé sur l'accoudoir du fauteuil empire placé près du lit. Il se demanda vaguement dans quel coin de la planète on élevait encore des vers à soie. Les serviteurs s'en étaient-ils chargés durant ces longs siècles d'indolence humaine? Ou bien cette soie était-elle créée artificiellement dans des cuves industrielles, à la façon dont les postes humains avaient créé, ou plutôt recréé, l'espèce humaine nano-altérée à laquelle il appartenait? Il avait trop mal au crâne pour s'attarder sur cette question. Il fit halte sur la mezzanine, ferma les yeux et se concentra. Rien. Il n'avait pas quitté la cabine. Il fit une nouvelle tentative. Toujours rien. Pris d'un soudain vertige, il descendit d'un pas hésitant l'escalier en fer forgé menant à l'étage inférieur et s'effondra dans le seul fauteuil placé devant la baie vitrée. La table était recouverte d'une nappe blanche. Armand ne dit pas un seul mot tandis que Moira lui apportait du jus d'orange dans un verre en cristal, du café dans une thermos blanche et un œuf poché accompagné d'une tranche de saumon. Elle remplit sa tasse de café noir. Armand baissa la tête pour se réchauffer le visage à la vapeur qui montait du liquide.
« Tu viens souvent ici ?»
lui lança Moira. Prospero entra dans la pièce se tenant bien en vue dans l'horrible lumière matinale qui se déversait par les portes-fenêtres.
« Ah, Armand. Mais peut-être faut-il maintenant vous appeler Newman, le nouvel homme. Quel plaisir de vous voir debout et en pleine forme.
La ferme !» rétorqua Armand. Il se contenta de siroter le café sans toucher à la nourriture. Prospero, ainsi qu'il le savait désormais, était un hologramme solide, un avatar de la logosphère se reconstituant d'une microseconde à la suivante au moyen de la matière que lui faxait l'un des accumulateurs orbitaux. S'il tentait d'agresser le vieux mage, cette matière se transformerait instantanément ou presque en projection évanescente.
« Je n'avais qu'une chance sur 100 de survivre au cabinet de cristal et vous le saviez, » dit-il sans même se retourner. Cette lumière était bien trop vive.
« Un peu plus que ça, je pense, » dit le mage en fermant les rideaux.
Moira attrapa une chaise pour s'asseoir près d'Arman. Elle avait enfilé une tunique rouge par-dessus la tenue d'aventurière qu'elle portait dans le Taj. Arman la fixa sans broncher.
« Tu connaissais sa vie dans sa jeunesse ?» Tu as assisté à la fête donnée dans l'archipel de New York en l'honneur du dernier fax, au-dessus de l'Empire State Building englouti. Et tu as déclaré à ses amis que tu ne l'avais pas vu, mais en réalité, tu lui avais rendu visite 2 jours plus tôt dans sa demeure de l'Antarctique.
« Comment peux-tu savoir cela ?»
demanda Moira.
Petra, l'amie de sa vie, a consigné dans un texte les recherches qu'elle avait effectuées en compagnie de son amant Pinchas. Ce texte a été imprimé et relié juste avant le dernier fax. Et il s'est retrouvé, je ne sais comment, dans la bibliothèque de ton ami Ferdinand Marc Alonso.
Mais comment Petra a-t-elle pu savoir que j'avais vu sa vie avant la fête de l'archipel de New York?
Je pense que Pinchas et elle ont retrouvé une note rédigée par sa vie quand ils ont fouillé son appartement du mont Erebus.
Armand s'aperçut que s'il réussissait à assimiler le café, celui-ci ne pouvait malheureusement rien contre sa migraine.
Alors maintenant, tu sais tout sur tout. « C'est ça ?»
lança Moira. Armand éclata de rire et le regretta presque aussitôt. Il posa sa tasse pour se masser la tempe droite.
« Non, » répondit-il au bout d'un temps. J'en sais juste assez pour savoir que je ne sais pas grand-chose sur quoi que ce soit. Et puis, il existe sur Terre 43 autres bibliothèques dont je n'ai pas encore visité le cabinet de cristal.
Ça vous tuerait, dit Prospero.
À ce moment précis, Arman n'aurait pas accueilli la mort avec trop de réticence. Sous l'effet de la migraine, toutes les choses qui l'entouraient semblaient nimbées d'une aura dorée. Il sirota un peu plus de café et espéra qu'il en avait fini avec la nausée. La cabine poursuivait sa route en grinçant, et il savait qu'elle avançait à plus de 300 km à l'heure. Ses embardées n'étaient pas de nature à lui apaiser l'estomac.
Aimeriez-vous en savoir davantage sur Gustave Eiffel? Né à Dijon le 15 décembre 1832, il obtient en 1855 un diplôme d'ingénieur de l'École centrale des arts et manufactures. Avant de réaliser sa célèbre tour inaugurée lors de l'exposition universelle de 1889, marquant le centenaire de la Révolution française, il a déjà conçu la coupole de l'Observatoire de Nice et la charpente métallique de la Liberté éclairant le monde. Il « Stop !» lança Moira.
« Personne n'apprécie les dictionnaires ambulants.
Où diable sommes-nous ?»
Arman réussit à se lever et à écarter les lourds rideaux. Il traversait une splendide vallée boisée et la cabine survolait les méandres d'une rivière à 200 mètres d'altitude. Les ruines d'un château antique étaient visibles en haut d'une crête.
« Nous venons de passer Cahors, » annonça Prospero. « Au prochain relais, nous mettrons le cap au sud en direction de Lourdes. »
Arman se frotta les yeux, puis ouvrit la porte pour sortir sur le balcon. Le champ de force qui enveloppait la cabine empêcha le vent de l'emporter dans les airs.
Pourquoi le sud ? Lança-t-il par la porte ouverte. Vous ne voulez pas filer au nord pour rendre visite à votre ami dans sa cathédrale de glace bleue ?
Moira sursauta.
Comment peux-tu savoir cela ?
Le Tage ne contient aucun livre mentionnant ce...
Non, fit Arman, mais mon ami Daiman a assisté à la première phase. L'arrivée de Cétébos à Paris-Cratère. Et il y avait des livres décrivant ce qu'accomplirait l'être aux mains multiples après avoir débarqué. Donc il est toujours là. Sur Terre, je veux dire.
Oui, répondit Prospero. Et ce n'est pas notre ami.
Arman haussa les épaules.
C'est vous qui l'avez amené ici la première fois. Lui et les autres.
Ce n'était pas notre intention,
protesta Moira. Arman ne put s'empêcher de rire, même si ça n'arrangeait pas sa migraine.
Non, en effet. Vous ouvrez une brèche sur les ténèbres, vous négligez de la refermer, et lorsqu'une horreur s'insinue à travers, vous affirmez « ce n'était pas notre intention ».
« Tu as appris beaucoup de choses », déclara Prospero. « Mais tu ne comprends pas encore tout ce que tu dois comprendre afin de... »
Ouais. Coupa Arman. « Je t'écouterai avec plus d'attention, Prospero, si je ne savais pas que tu fais partie des entités qui sont arrivées par cette brèche. Les post-humains ont passé un millier d'années à tenter de contacter des êtres d'ailleurs, altérant au passage la configuration quantique du système solaire, et tout ce qu'ils ont obtenu, c'est une cervelle à pattes et un cybervirus rechappé sorti d'une pièce de Shakespeare. »
Le vieux mage se fendit d'un petit sourire. Moira secoua la tête d'un air agacé, se servit une tasse de café et la but sans faire de commentaires.
Même si nous voulions faire un petit bonjour à Cétébos, ce serait impossible, dit Prospero. Il n'y a plus de tour à Paris-Cratère. Il n'en avait déjà plus à l'époque du virus Rubicon.
Ouais.
Arman revint auprès de la table, mais resta debout pour siroter son café.
Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à me faxer tout seul ?
Demanda-t-il soudain.
Pardon ?
Dit Moira.
Pourquoi est-ce que j'en suis incapable ? Je sais maintenant comment ouvrir les fonctions sans l'aide des figures mémotechniques, mais ça n'a pas marché à mon réveil. Je veux me faxer à Ardis.
C'était beau ça, désactiver le système fax à l'échelle de la planète, dit Prospero. Cela concerne à la fois les nœuds fax et le libre fax.
Arman acquiesça et se frotta les joues. Une barbe de 10 jours lui râpa les doigts.
Donc, vous pouvez toujours vous téléporter, tous les deux, ainsi qu'Ariel, je suppose. Mais je suis coincé dans cette stupide cabine jusqu'à ce qu'on arrive à la brèche atlantique. Vous croyez vraiment que je vais traverser l'Atlantique à pied pour me rendre en Amérique du Nord? Ada sera morte de vieillesse avant que j'arrive à Ardis.
La nanotechnologie à laquelle vous devez vos fonctions ne vous a pas préparé à la téléportation quantique,
dit Prospero d'une voix où perçait la tristesse.
Non, mais tu peux me décucher, moi,
dit Arman en se penchant sur le vieil homme qui s'était assis sur le sofa.
Touche-moi et décue-toi. C'est aussi simple que ça.
Hélas, non. Et tu es désormais assez avisé pour savoir que ni Moira ni moi n'agirons sous la menace.
Arman avait accédé à des horloges orbitales à son réveil, et il savait qu'il était resté inconscient pendant 9 jours pleins.
Il avait envie de tout casser, les tasses, les assiettes et la table. « Nous suivons la ligne 11 de l'Efelban, » dit-il. « Après avoir quitté le mont Everest, nous avons dû emprunter la ligne Axilshan qui nous a fait passer à proximité de la bulle de Tarimpendi. Là-bas, j'aurais trouvé des sonis, des armes, des rampeurs, des harnais de lévitation, des impacto-armures, tout ce dont Ada et son peuple ont besoin pour survivre. »
« Nous avons dû faire certains détours, » dit Prospero. « Si tu étais descendu de la tour pour explorer la bulle de Tarimpendi, nous n'aurions pu garantir ta sécurité. »«
Ma sécurité ?» railla Arman.
« Oui, nous devons vivre dans la sécurité, n'est-ce pas, ô mage, ô Moira ?»«
Tu étais moins immature avant le cabinet de cristal, » dit Moira d'un air méprisant.
Arman ne chercha pas à discuter. Il reposa sa tasse, planta ses 2 poings sur la table, regarda Moira dans les yeux et dit
« Je sais que c'est le califat global qui a envoyé les Voynix dans l'avenir pour tuer tous les Juifs. Mais pourquoi les posthumains ont-ils stocké les 9114 Juifs survivants dans un rayon qu'ils ont ensuite projeté dans l'espace? Pourquoi ne pas les avoir emmenés dans les anneaux avec vous, tout simplement? Dans les anneaux ou dans un autre refuge? Enfin, vous aviez déjà localisé la Mars interdimensionnelle et entrepris de la terraformer. Pourquoi avoir transformé ces gens en neutrinos ?»«
9113, » rectifia Moira. Sa vie est restée sur Terre.
Arman attendit une réponse à sa question. Moira reposa sa tasse. La colère se lisait dans ses yeux, tout comme elle s'était jadis lue dans ceux de sa vie.
Nous avons dit à sa vie et à ses semblables qu'il serait stocké dans la boucle neutrinique pendant quelques millénaires, le temps que nous ayons nettoyé la planète,
murmura-t-elle.
Il pensait que nous allions éliminer les résidus des années de démence, les dinosaures, les oiseaux terreurs et les forêts de Sika recréées par les arnistes. Mais nous comptions aussi nous occuper des Voynix, de Cétébos, de la sorcière dans sa cité orbitale.
Sauf que vous n'avez pas éliminé les Voynix, coupa Arman. Ces saletés ont été activées et ont construit leur 3e temple sur la coupole du rocher.
Faute de pouvoir les éliminer, nous les avons reprogrammés. Ils ont servi de domestiques à ton peuple pendant 1400 ans.
« Jusqu'à ce qu'ils se mettent à nous massacrer, »
enchaîna Arman, se tournant ensuite vers Prospero.
« Tout juste après que tu nous as incités, Daeman et moi, à détruire la cité orbitale où Caliban et toi étiez... emprisonnés. Et tout ça pour récupérer un misérable hologramme ?»«
Disons, plutôt l'équivalent d'un lobe frontal, » rétorqua le mage. « Et même si vous n'aviez pas détruit les œuvres vives de ma cité orbitale, les Voynix auraient été réactivés. »
« Pourquoi ?»
« À cause de Cétébos. Son exil d'un millénaire et demi, au cours duquel il n'avait pu se repaître que d'autres terres et de la Mars terraformée, avait pris fin. Dès que l'être aux mains multiples a ouvert un trou de brane pour humer l'air de cette terre, les Voynix ont réagi conformément à leur programme.
« Un programme mis en place il y a 3000 ans, » ajouta Arman. « Les membres de mon peuple ne sont pas tous d'ascendance juive comme l'était sa vie. »
Prospero haussa les épaules.
Les Voynix ne le savent pas. À l'époque de sa vie, tous les humains étaient juifs. Par conséquent, pour un esprit limité comme celui des Voynix, tous les humains sont juifs. Si A égale B et B égale C, alors A égale C. Si la Crète est une île et l'Angleterre est une île, alors...
La Crète et l'Angleterre,
acheva Arman.
Mais le virus Rubicon n'était pas sorti d'un laboratoire israélien. C'est de la propagande diffamatoire.
« Tu as parfaitement raison, » dit Prospero. « Le Rubicon est la seule contribution de la science islamique en 2000 ans d'obscurantisme. »«
11 milliards de morts, » dit Arman d'une voix tremblante. « 97% de la population du globe anéantie d'un seul coup. »
Prospero haussa les épaules une nouvelle fois.
« La guerre avait été fort longue. »
Arman éclata de rire.
« Et le virus a touché presque tout le monde, excepté ceux qu'il était censé tuer. »«
Les scientifiques israéliens avaient acquis une grande maîtrise des manipulations nanogénétiques, dit le mage. Ils savaient qu'ils devaient inoculer l'ADN de leur population avant qu'il ne soit trop tard. Mais ils auraient pu partager leur remède avec le reste du monde. Ils ont tenté de le faire. Le temps leur a manqué. Mais l'ADN de ton ethnie a été stocké.
Ce n'est pas le califat global qui a inventé le voyage dans le temps,
déclara Harman sans trop savoir s'il s'agissait d'une question ou d'une affirmation.
Non, c'est un scientifique français qui a mis au point la première bulle temporelle capable de fonctionner.
Henri Rhys de la Courte,
murmura Harman,
afin de se rendre en 1478 après Jésus-Christ et d'examiner un étrange et intéressant manuscrit que l'empereur Rodolphe II de Habsbourg devait acquérir par la suite en 1586,
poursuivit le mage.
Une expédition ne posant aucun problème, du moins en apparence. Mais nous savons aujourd'hui que ce manuscrit, rédigé dans un langage codé et illustré par des dessins représentant des plantes inconnues, des systèmes stellaires et des êtres nus, était un canular. Et le docteur de la Courte et sa ville natale ont payé le prix fort lorsque le trou noir qu'il utilisait comme source d'énergie est sorti de son champ de confinement.
Mais la France et la nouvelle Union européenne ont transmis les plans au califat, insista Harman. Pourquoi ?
Prospero leva ses vieilles mains toutes tavelées comme pour donner la bénédiction.
Les scientifiques palestiniens étaient leurs amis.
Je me demande si Wilfried Voynich, ce spécialiste en livres rares du début du XXe siècle, a pu imaginer qu'on donnerait son nom à des monstres autorépliquants, dit Harman.
Rares sont ceux d'entre nous qui peuvent concevoir ce que sera leur héritage,
dit Prospero, les mains toujours levées.
Moira poussa un soupir.
Vous avez bientôt fini de vous perdre dans les souvenirs ?
Harman se tourna vers elle.
Et toi, mon Prométhée en puissance, tu as un bout qui dépasse. Si tu cherchais à me faire tiquer, tu as gagné.
Harman baissa les yeux. Son peignoir était entrouvert. Il s'empressa de le refermer.
Nous allons franchir les Pyrénées dans l'heure qui vient,
reprit Moira.
À présent qu'Harman a dans le crâne autre chose qu'un thermomètre à plaisir, nous avons des choses à nous dire et des décisions à prendre. Je propose que Prométhée remonte à l'étage pour se doucher et s'habiller. Papy peut faire une petite sieste en attendant. Moi, je m'occupe de la vaisselle.